spécialisation. Nadine, on revient du côté du champ de la ville, des études urbaines, avec Métropolitique et puis ses particularités, y compris en termes de lectorat, me semble-t-il.
Bonjour, donc je suis Nadine Roudil, je représente une revue qui s'appelle Métropolitique, qui est une revue électronique, gratuite, en open access. Et cette question est importante parce que ça a été un prérequis au moment de la fondation de la revue. La revue a été créée en novembre 2010. Et la question de l'open access nous a permis de donner une certaine visibilité au projet politique de la revue, qui était bien d'agir sur le débat public, et dans un contexte particulier, puisque c'était le contexte urbain, le contexte de la ville, qui rassemble un grand nombre de questions sociales, économiques, environnementales, et qui nous paraissait, donc en 2010, pas forcément bien servi, ou en tout cas avec des entrées parfois très caricaturales. Et du coup, c'est vrai que ce format-là nous a permis, s'est imposé à nous, pour pouvoir justement lancer un certain nombre de débats, de questions autour de ces questions urbaines. Définir Métropolitique, en fait, nous sommes une revue qui est faite par des enseignants-chercheurs. C'est vrai que nous sommes essentiellement au sein de la rédaction. Alors, tout à l'heure, tu me présentais comme co-rédactrice en chef. Effectivement, nous sommes une vingtaine de co-rédacteurs en chef, auquel il faut ajouter une secrétaire de rédaction qui est ici, également Lydie Rosier, et un traducteur, Oliver Wayne. Alors effectivement, l'histoire de la revue a fait que nous avons commencé avec beaucoup moins, une dizaine de rédacteurs en chef. C'est une revue qui fonctionne sur un format très horizontal. En évoluant, nous avons créé une direction de la rédaction, mais qui a juste une vocation assez organisationnelle. Et l'objectif de la revue, c'est de combiner à la fois des exigences et des rigueurs scientifiques, de diffusion des travaux de recherche en sciences humaines et sociales, dans le champ global des études urbaines, car ça aussi, c'est le deuxième enjeu de la revue, c'est-à-dire que, en même temps qu'on pouvait mesurer que les questions urbaines n'étaient pas forcément bien traitées, l'idée, c'était d'arriver à diffuser aussi des recherches en sciences humaines et sociales, mais surtout d'arriver à les vulgariser. C'est-à-dire, les deux mots importants, hein, c'est diffusion et vulgarisation, au sens où nous avions envie d'être non seulement lus par des acteurs professionnels, mais aussi que ces acteurs professionnels participent à ce débat et publient dans la revue, ce qui effectivement encore est un enjeu qui n'est pas forcément, j'avoue, hein, bien tenu nous concernant. Donc véritablement, nous avons souhaité qu'à travers ces formats, qui sont des formats très spécifiques, parce que ce sont des formats courts, 10 000, 15 000 signes, il y ait ce maintien d'une forme de rigueur, d'accès à la complexité, tout en permettant de diffuser des informations dans une rigueur qui permette d'éclairer un certain nombre de questions. La volonté, c'est de toucher un lectorat assez large. Donc quand on regarde effectivement qui lit Métropolitique, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui écrivent et un lectorat majoritairement de professionnels, puisque si on fait un focus un peu sur l'étude statistique qu'on a pu faire, en tout cas qu'un des rédacteurs a pu faire, nous avons 36,8% de collectivités territoriales qui nous lisent et uniquement environ 19% d'enseignants-chercheurs et d'étudiants, tout le reste étant effectivement soit des entreprises, 11%, des agences d'architecture aussi, 11%, et des associations, 13%. Donc véritablement, le pari, je dirais, du lectorat est assez réussi. Je reviens un petit peu sur le format, ce format très particulier, qui fait que la lecture est rendue facile, mais surtout donne une très grande visibilité. Savoir que Métropolitique, au fil des années, est devenue une revue très lue. Nous évaluons, on va dire, la lecture, ce qu'on appelle au clic, c'est-à-dire au lecteur unique. Et un bon article lu, qui pour nous donne satisfaction, c'est entre 9000 et 10000 lectures, ce qui pour un enseignant-chercheur est incroyable. C'est-à-dire, on arrive rarement à avoir ce score, sachant que l'article le plus lu de toute l'histoire de la revue a 64000 lecteurs uniques. ce qui est absolument inédit et assez énorme. Donc effectivement, ça donne aussi une certaine popularité à la revue, à savoir que nous sommes très sollicités pour pouvoir publier. Également, nous accompagnons énormément l'édition, c'est-à-dire que le format lui-même fait que nous sollicitons les auteurs, ce qui fait qu'il y a très peu très peu d'articles qui rentrent, on va dire, à la validation, qui ne ressortent pas, dans la mesure où l'accompagnement est vraiment un gros travail qui nous permet de faire aboutir des textes dans un format qui n'est pas forcément facile à écrire pour nous, enseignants-chercheurs, puisque c'est un format assez ramassé, assez centré, avec une volonté de centrer le propos, d'être assez efficace dans l'écriture, clair, avec une structure du texte qui permet de comprendre le contenu de manière assez rapide. L'idée, c'est de garder une rigueur scientifique. Il s'agit de citer les sources. Il s'agit effectivement de rendre compte de la complexité, je le disais tout à l'heure, mais aussi par rapport à quelque chose qui était dit tout à l'heure par rapport à l'HERS, qui fait que nous ne sommes pas classés par l'HERS, tout simplement parce que nous avons très peu d'écueils. Nous avons très peu de rejets de textes. Donc de ce fait, c'est un petit peu difficile. Et ce qui est intéressant dans le retour d'expérience qu'on peut avoir, c'est qu'on se rend compte qu'énormément d'universitaires nous citent les textes de métropolitique, les mettent dans des bibliographies, les mettent dans des doctorats, dans des HDR, et qui montrent bien qu'effectivement, il y a une forme de reconnaissance très très forte à la fois des pairs, tout en étant dans cette volonté d'écrire pour le grand public. Et c'est vraiment ces deux dimensions-là qu'on essaye de tenir. Le modèle économique de métropolitique, alors ça c'est un peu le cœur de la revue, c'est quelque chose qui me permet de dire que métropolitique, en fait les rédacteurs en chef de métropolitique ont fait l'expérience de la fragilité. Et dès le départ, en 2010, la revue a tenu grâce à nos nuits blanches, d'une certaine manière, et grâce à effectivement des partenariats, alors des partenariats qu'on ne voit pas forcément tout de suite, on parlait tout à l'heure des labos, mais le fait d'être hébergé par un labo, mon labo qui est l'UMR l'a vu, a hébergé au sein du GERFO, puis au sein du CRH, Centre Recherche sur l'Habitat Métropolitique, gratuitement, entre guillemets. C'est également des billets de train qui sont payés pour permettre aux rédacteurs d'être présents sur des comités de sélection. Des comités de rédaction, pardon. Et également de conclure des partenariats avec un petit peu avec de l'argent. Et là, effectivement, à l'heure actuelle, nous avons trois partenariats avec la MSH Nord qui accueille, qui héberge pour l'instant la rédaction et le secrétariat de rédaction, la Fondation Abbé Pierre, le Forum Vie Mobile, le Centre National de la Fonction Publique et Territoriale, qui nous oblige nous aussi à nous décentrer un petit peu, puisqu'on a fait une école d'été avec eux, et le CNRS, qui paye, effectivement, qui nous permet d'avoir ce poste de secrétaire qui est extrêmement précieux, à la fois parce que tout à l'heure, on en parlait peut-être dans la matinée. Hein, nous, enseignants-chercheurs, lorsque l'on fait, on crée une revue comme Métropolitique, on se retrouve à avoir des tâches auxquelles on n'est pas du tout préparé. Moi, je sais pas faire secrétaire de rédaction, je ne sais pas le faire du tout. Et l'arrivée de Lydie est à la fois une présence extrêmement rassurante, parce que non seulement elle fait ce travail beaucoup mieux que nous, mais en plus, elle nous permet de dégager du temps pour nous investir dans le suivi des auteurs, dans les commandes, et effectivement de nous recentrer un peu plus sur le cœur des choses. Autre caractéristique de Métropolitique, c'est que c'est aussi Métropolitics, c'est-à-dire que nous sommes une revue anglaise, puisqu'en 2014, un bureau de Métropolitique a été ouvert à New York avec des collègues américains, au profit justement d'un de nos collègues, Stéphane Tonla, qui a créé Métropolitics avec ses collègues, puisqu'il était en poste à l'Université de New York, NIU. Et de ce fait, ça permet aussi alors, l'édition new-yorkaise fonctionne pas forcément complètement comme la française. Par exemple, elle fait des appels à articles, ce que nous ne faisons pas du tout. Elle écrit en langue anglaise. Et nous, parfois, traduisons effectivement un certain nombre d'articles en anglais. Nous publions essentiellement en français et nous identifions des articles spécifiques qui permettent de nous décentrer un peu du débat français et aussi une des raisons pour laquelle nous avons voulu ouvrir une revue anglaise et aux États-Unis, c'est que l'intérêt c'était de se décentrer un petit peu d'un débat hexagonal et d'arriver à embrasser des questions urbaines de manière, on va dire, transatlantique. Donc ces va-et-vient sont extrêmement importants puisqu'ils permettent à la revue une double visibilité pour certains articles et nous aussi de pouvoir étendre ce débat sur les questions d'études urbaines de manière internationale.
Merci Nadine.